Le centre d'interprétation de la Première Guerre mondiale vient de s'ouvrir au public à Souchez, dans le Pas-de-Calais. Il complétera le dispositif mémoriel dédié à la guerre 14-18 avec les sites voisins du Mémorial canadien de Vimy et du Mémorial international Notre-Dame-de-Lorette, dont le lumineux anneau de mémoire a été inauguré l'an dernier. Visite guidée avec Yves Lemaner, historien chargé par la région des cérémonies commémoratives de la Grande Guerre que nous avions retrouvé dans l'agitation des préparatifs de l'ouverture au public.
Alors entrez, je vous prie. Vous êtes donc ici dans le premier espace qui évoquera la guerre de mouvement du mois d'août au mois d'octobre 1914. Ce que la mémoire collective n'a pas retenu, c'est que ça a été la période la plus meurtrière du conflit. Tout simplement parce que les soldats qui combattent à la surface du sol, à pied ou à cheval, comme on le voit derrière pour ces officiers britanniques, se sont heurtés à la puissance de feu des armes modernes, les fusils à répétition, les canons à tir rapide. Ça a été une boucherie sans nom dans les plaines de Belgique et du nord de la France pendant les trois premiers mois du conflit.
Si l'on connaît bien maintenant la ligne de front de la guerre 14-18, on évoque plus rarement l'occupation allemande dans le nord de la France durant cette période. Yves Lemaner nous informe que cette lacune est désormais comblée par le Centre d'interprétation de la Première Guerre mondiale, dont la vocation également touristique ne fait plus mystère.
En octobre 14, les Allemands s'installent à Lille, à Douai, à Cambrai, à Valenciennes. Ils ont mis la main sur ce qui est à l'époque l'une des plus puissantes régions agricoles et industrielles de France. Et ils vont l'exploiter jusqu'à la Corse. Ce qu'il faut voir, c'est que ces villes occupées sont à proximité du front. Ce qui explique l'omniprésence des troupes allemandes. Demain, sur les murs, vont être mises de grandes photographies où l'on voit les parades provocatrices de l'armée allemande sur la Grand Place de Valenciennes, sur la Grand Place de Lille. Il y a une occupation massive du nord de la France par l'armée allemande, qui chasse tous les représentants de l'État français, qui ne traite qu'avec les municipalités, et qui se met à exploiter le pays jusqu'à la corde. Les Allemands vont piller les ressources alimentaires, ils vont démonter les machines dans les usines avant de les détruire, et ils vont réduire la population à un état de survie que seule l'aide du comité américain va permettre d'empêcher de tourner à la famine véritable. Et voyez ici sur ce mur, on a sélectionné quelques-unes parmi les centaines d'affiches que les Allemands ont apposé sur les murs des villes du Nord occupées. Et voyez toujours toutes les sortes d'injonctions, balayer le pas de la porte, interdit d'avoir des pigeons, obligation d'un impôt sur les chiens, toutes les mesures les plus humiliantes ont été prises par l'occupant allemand. Et ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que les conditions de l'occupation de 14-18 ont été pour les populations civiles du Nord tout aussi redoutables que l'occupation de 40-44. La seule différence, et elle est majeure néanmoins, c'est le fait qu'il n'y a pas la sauvagerie criminelle du nazisme. Il y aura une répression très dure. Les fusillés de la citadelle de Lille, il y a encore les statues à l'entrée de la citadelle aujourd'hui. Mais après la fin de 1915, la population est assommée par les exécutions, elle ne bougera plus, elle vivra jusqu'à la fin de l'occupation dans un état de survie extrêmement difficile. Et cette dureté de l'occupation allemande de 14-18 explique un phénomène majeur en 40, ça a été l'exode. Les gens ont quitté leur domicile parce qu'ils ne voulaient pas être sous contrôle allemand. Ça s'est fait en Belgique, ça s'est fait dans le nord de la France. Donc vous voyez, c'est toute l'histoire du XXe siècle qui se lie à partir de cette occupation allemande de 14-18. Des affiches, des photographies très impressionnantes, des extraits de films que l'on montrera, qui sont inédits, qui ont été tournés par les services allemands à Lille, à Cambrai, à Douai, à Valenciennes, où l'on voit des villes qui sont des villes allemandes, avec des brasseries allemandes, avec des librairies allemandes, avec des permissionnaires allemands qui circulent dans les parcs municipaux aux côtés des habitants.
Si les noms gravés sur les murs du Mémorial international Notre-Dame de Lorette impressionnent de par leur nombre, c'est au centre d'interprétation de Souchez de donner au public des précisions sur les personnes ayant laissé leur vie sur les champs de bataille de l'Artois.
On va donc évoquer ici, dans ce lieu, la mémoire des 580 000 combattants dont le nom est gravé là-haut. On va donc proposer aux visiteurs des bases de données françaises, allemandes, britanniques, portugaises, belges, sur lesquelles on va pouvoir consulter le parcours des soldats sur des tablettes tactiles et avec un ordinateur central qui sera connecté à un grand écran que les accompagnateurs de groupe, les Battlefield Tours, les tours opérateurs, pourront utiliser.
Le centre d'interprétation de la Première Guerre mondiale est donc un lieu riche en histoire qui présente des documents et des objets authentiques. Yves Le Manner nous explique comment il était pensé.
On a rédigé un programme historique et ensuite on a recherché les vecteurs de transmission. Et ces vecteurs de transmission, vous l'avez vu, il y en a de deux natures, des vecteurs iconographiques, des photographies d'archives, des films d'archives et d'autre part des objets. Mais ce qui est important dans ce lieu, c'est l'authenticité des moyens d'information. Aussi bien les photos que les films que les objets sont tous précisément référencés dans le temps, dans l'espace et ils ont un sens documentaire.
Est-ce qu'on peut dire que c'est une conception moderne, à la lueur du XXIe siècle, de ce que peut être un lieu mémoire ?
Il n'y a plus de possibilité de faire autrement. On est dans un monde très ouvert où les citoyens ont accès à de l'information par de multiples moyens. Mais outre la puissance du web, on a besoin de lieux. De lieux pour fixer l'attention sur un sujet donné. On l'a vérifié avec l'anneau de mémoire. Lorsqu'on a conçu ce site, beaucoup de gens étaient dubitatifs en disant « Encore un mémorial, 100 ans après, ça ne va intéresser personne. » Et ça passionne collectivement les peuples. Tout simplement parce qu'il faut avoir conscience qu'en ce début de XXIe siècle, nous les Européens, nous les Américains du Nord, on est des privilégiés sur la planète. On vit en paix depuis 70 ans. On vient de célébrer le 70e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est devenu quelque chose de tellement banal que les gens n'ont pas pris conscience du changement radical que nos pays ont connu depuis 1945. On s'est débarrassé de la guerre. On n'envoie plus des jeunes de 20 ans, conscrits ou volontaires, mourir au front, puisque nos armées sont devenues des armées professionnelles. Donc il est toujours très utile de rappeler à une société qu'elle ne naît pas de rien, qu'elle est l'aboutissement, qu'elle est le fruit de l'expérience des générations d'avant. Et la génération qui a connu 14-18 a souffert du pire. Vous imaginez les taux de mortalité épouvantables, la déstructuration des sociétés rurales, la mobilisation des femmes, l'émergence des femmes dans la société. Donc cette guerre de 14-18, il y a un siècle qu'elle a eu lieu, mais elle est encore très présente dans nos racines.
Donc c'est vrai que c'est un véritable message pour l'avenir également, et puis sur l'idée d'une paix durable qui peut être montrée, présentée ici à Souchez.
Alors en même temps, c'est vrai qu'il y a une paix durable, mais il faut inciter à la vigilance. On a connu la guerre en Europe, en Yougoslavie, dans les années 1990. On l'a connue et on la connaît encore partiellement en Ukraine. Donc on voit bien qu'il faut garder le citoyen éveillé, lui garder l'esprit critique, être capable de comprendre le sens des discours. Et donc ce qu'il faut quand même souligner, c'est les progrès collectifs des grandes nations européennes depuis maintenant 70 ans, et en particulier ce qui est un phénomène unique dans l'histoire de l'humanité, le rapprochement franco-allemand après trois guerres d'une violence inouïe.
Est-ce qu'on vit un moment où justement le citoyen est en mesure d'empêcher, de réagir sur des menaces de guerre ?
Alors c'est complexe à dire parce que la guerre est un phénomène qui échappe aux simples citoyens, mais la collectivité des citoyens qui dispose du droit de vote, qui dispose de droit d'expression, est en mesure d'intervenir dans le débat public. Donc ça suppose qu'il y ait une mobilisation de l'esprit des gens pour faire attention à ce qui est important, à ce qui ne l'est pas.
Est-ce que vous pensez qu'on a tiré toutes les leçons de ces deux dernières guerres mondiales ?
Alors, la preuve que non, puisque après la première, il y en a eu une seconde. On est loin d'avoir tiré toutes les leçons des conflits. On a ceci dit collectivement progresser, nous les Européens, par rapport au phénomène de la guerre. On sait très bien que les sociétés européennes aujourd'hui sont devenues extrêmement pacifistes. Et bizarrement, elles avaient commencé à le devenir au lendemain de la Première Guerre mondiale. On l'ignore souvent, il y a eu des rapprochements entre anciens combattants français et allemands, par exemple, dans les années 20 à Verdun. Et simplement, on a acquis collectivement une plus grande sagesse. Mais regardez le biais qui a été utilisé. Le biais, ça a été l'économique, ça a été le marché commun, ça a été la monnaie commune. Donc, pour atteindre ce but d'amitié entre les grandes nations européennes, il a fallu contourner. On n'a pas tout de suite fait appel à la mémoire collective des gens. Maintenant, on fait appel à la mémoire collective des gens. Et le fait qu'on ait pu réunir sur l'anneau de mémoire des gens de toute nationalité, amis et ennemis, c'est un symbole. Il y a 20 ans, c'était impossible. Donc on évoque dans ce lieu le caractère mondial du conflit. Quand on dit la Première Guerre mondiale, c'est une expression souvent banale. Mais il faut savoir que sur le sol de l'Artois et de la Flandre sont venus combattre des hommes de toute la planète. Des Inuits canadiens, des tireurs d'élite de l'armée canadienne, des Canadiens de toutes origines, des Africains du Nord, Marocains, Algériens, Tunisiens, ceux qu'on appelait les Sénégalais, mais qui comportent une bonne partie de Guinéens ou de Maliens, des Indiens de l'armée britannique qui ont combattu ici en 14 et en 15, notamment en Flandre française, et plusieurs milliers sont commémorés au mémorial de Neuve-Chapelle, des Australiens, des Néo-Zélandais, et bien sûr, Allemands, Français et les peuples britanniques des îles, les Anglais, les Écossais, les Gallois, les Irlandais. Donc c'est vraiment toute la planète qui est venue combattre et mourir ici, et c'est un message extrêmement puissant, bien sûr.
Conçu par l'architecte et scénographe Pierre-Louis Falossi, le bâtiment du centre d'interprétation de la Première Guerre a été construit sur les terres du Centre européen de la paix de Souchez, dont le bâtiment va être rénové et intégré au dispositif. Pierre-Louis Falossi nous explique le contexte de sa mission et le concept de boîte noire qu'il a développé pour ce lieu très particulier.
Ici, l'idée, c'est de réinstaller une boîte noire dans un site, de l'éclater, et dans cet éclatement, de mettre le sujet. Ce qui veut dire que nous sommes dans une obscurité, nous sommes dans une pénombre, et cette hiérarchie de pénombre, on la traite en muséographie pour arriver à mettre en valeur les objets dans une hiérarchie partant d'images plutôt dans la pénombre, devenant de plus en plus précises, aussi bien verticalement qu'horizontalement. Et puis on a pensé à un lieu qui avait trois ou quatre hiérarchies de visites, c'est-à-dire une visite un peu pour les enfants, un peu comme ça, ensuite une visite un peu plus pointue, et puis on a fait un travail quand même pour les gens qui font un travail de mémoire plus aigu, plus scientifique. Donc ce musée offre tout. Il est d'apparence extérieure peut-être austère, mais en même temps, l'idée c'était qu'on voulait que c'est à l'interstice des boîtes qu'on a faites, de ces chapelles, que se dégagent les grandes vues. Et à l'intérieur de ces chapelles, c'est plutôt une sculpture de la lumière naturelle qui vient, qu'on ne voit pas trop aujourd'hui parce qu'il y a un temps gris, mais dès qu'il y a une pointe de soleil ou un peu mieux, on voit toutes les ombres portées des boîtes éclatées qu'on a fait, et on voit surtout les effets de lumière dans les couloirs entre les chapelles. Dès qu'il y a un rayon de soleil, il y a des stries qui descendent. Donc la lumière naturelle pour nous, c'était un élément de métaphore de la mitraille, de la souffrance, de l'emprisonnement. Tout ça est un ensemble très composé avec le paysage, puisque autant on a fait une boîte noire éclatée pour le bâtiment, autant on a fait un dispositif de parking éclaté aussi, mais les murs ne sont pas noirs, les murs sont des ifs qui aujourd'hui font 2 mètres de haut et qui feront 3,50 mètres, c'est ça le but, de manière à créer de véritables pièces dans lesquelles les voitures rentreront. Elles n'auront de rapport qu'avec le ciel. Et les gens qui visiteront le musée ne verront plus jamais les voitures. Il ne faudra pas patienter un tout petit peu. Et donc, de loin ou de près, on verra des masses végétales comme ça. Et puis, on en sort. Et là, on a joué sur un grand escalier. Et puis après, on a joué sur les rampes handicapées pour en faire un parcours possible qui rappelle, là, pour le coup, une atmosphère de tranchée, une atmosphère d'enfermement. Et même, je dirais, les noues de récupération d'eau qu'on a travaillé dans la pente du parking, ça rappelle aussi des tranchées. Mais ce n'est pas de la métaphore. C'est utiliser des outils techniques d'aujourd'hui pour finalement replonger quelque part, même très légèrement, des moments qui ont vécu ou qui ont été sur le lieu.
Donc, à l'intérieur, ce lieu bénéficie de beaucoup de petits espaces qu'on peut présenter dans les meilleures conditions, des photos notamment, ou des documents qui demandent
oui,
à s'approcher.
Oui, parce qu'on a une collection qui est magnifique, on a quelques films qui sont magnifiques, on a de l'interactivité, on a cette idée très importante d'avoir la salle finale qui permet de, en interactivité, de rejoindre ou de compléter le magnifique, les magnifiques noms, le lettrisme de l'anneau du haut. Et le nom de l'anneau du haut, quelqu'un qui prendrait un nom, il vient, il tape et il aura toute une information sur sa famille, ce qui n'est pas le cas là-haut. Donc on a un complément absolument parfait pour moi intellectuellement entre le travail de l'architecte qui a fait l'anneau et qui, dont le hasard fait que nous sommes tous les deux enseignants de la même école, c'est quand même un truc incroyable, et qu'on se connaît très bien. Lui, il a fait son projet bien avant. Nous, on avait la contrainte du centre européen, on était sur le côté, mais finalement, le centre européen, on va le réaménager. La chose la plus importante aussi, c'est que devant le centre européen, désormais, quand on descendra de l'anneau, on aura un filtre des 32 pays belligérants, ici, de la région, donc, et ce filtre sera très légèrement éclairé de nuit, et je pense qu'on aura un échange symbolique aussi.
C'était Pierre-Louis Falossi, l'architecte de ce lieu qui est dès à présent ouvert au grand public et géré par la communauté de communes Lanciévin. Vous retrouverez donc naturellement les détails pratiques et les horaires d'ouverture sur le site www.tourisme-lanciévin.fr. C'était un reportage de René Lavergne de Radio Campus.